Bonjour et bienvenue pour ce cours Microsoft Virtual Academy qui, une fois n'est pas coutume, va traiter de Babylon.js et de 3D Studio Max. Ce cours fait partie d'un ensemble de trois leçons et première partie, premier pas, j'ai envie de dire de manière un peu facétieuse, nous allons voir aujourd'hui ce qu'est Babylon.js, ce qu'est 3D Studio Max et comment on fait cohabiter les deux au sein d'un pipeline de production graphique. Alors je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc je suis Michel Rousseau, je travaille chez Microsoft France dans la division DX, qui n'est pas que cool à cause du X, mais qui est cool parce qu'on y rencontre des gens fabuleux comme David Catu, le papa, le créateur du moteur 3D Babylon.js, David Rousset avec qui on a beaucoup travaillé à l'emprise web des moteurs 3D d'aujourd'hui. Et Pierre Lagarde pour tout ce qui concerne l'architecture globale du projet. Donc qu'est-ce que c'est que Babylon.js? Eh bien pour ça je vais passer directement sur la fenêtre du navigateur. Donc là en l'occurrence vous voyez que j'utilise Chrome, c'est à dessein, hein, bien entendu vous imaginez bien ça. L'idée qui est ici c'est de dire Babylon.js, c'est un moteur 3D qui doit être compatible partout. Et ce défi-là ne peut être atteint aujourd'hui que par un moteur web natif. Et comme aujourd'hui tous les navigateurs un peu modernes utilisent WebGL, c'est le standard que l'on a adopté. Alors, un moteur 3D temps réel WebGL, d'accord, mais ça ne nous suffisait pas encore. On a décidé de le rendre entièrement open source pour créer une communauté autour et pour avoir un moteur le plus universel possible. Alors là, vous voyez, on est sur la page de Babylon.js qui dit tout ce que l'on doit savoir. C'est simple, c'est puissant et c'est facile à mettre en œuvre. Notamment parce que on a développé des exportateurs pour les outils du marché, des outils pro, et notamment un outil gratuit comme Blender, par exemple, dispose déjà de son exportateur d'assets 3D pour Babylon.js. Mais parlons peu, parlons bien, regardons un peu ce à quoi est destiné un asset 3D une fois qu'il a été conçu et envoyé dans Babylon.js. Alors là, en l'occurrence, je lance une scène qui s'appelle Spilit. Vous voyez, on se retrouve à l'intérieur d'un musée, finalement, dans lequel je peux me déplacer, changer mon point de vue, aller peut-être un petit peu par là-bas, regarder ce qu'il y a au niveau du poster sur le mur, aller voir les œuvres en elles-mêmes. Voilà. Me déplacer, toucher un mur. Ah, tiens, je ne peux pas passer. D'accord, on gère les collisions. Et ainsi de suite. Donc un vrai moteur 3D, hein, digne des productions de jeux vidéo. Mais en plus avec quelques petites retouches technique, hein, et là notamment faite par David Rousset, qui permet d'avoir la gestion du multipoint directement pour la navigation grâce à des joysticks virtuels, tout ce genre de choses. Bien entendu, vous disposez aussi d'un panneau de contrôle qui permet d'afficher le fil de fer qui sous-tend les objets 3D de la scène, ou alors de voir les statistiques de la scène, notamment le nombre de sommets en temps réel qui est affiché. Très bien, ça c'est Babylon.js. Pour que Babylon.js réussisse, il faut bien entendu que l'artiste 3D dispose de la capacité de traiter ses propres créations pour les envoyer dans Babylon.js. Pour ça, je vais revenir sur ici, un petit peu trop loin, je suis revenu. Je vais revenir ici sur la page et je me rends compte que le site comporte une section download qui envoie vers un GitHub. Le GitHub n'est pas tout à fait anodin puisque c'est là où l'on dispose nos sources open source de manière à ce que la communauté puisse s'en emparer et créer à son tour du contenu pour Babylon.js. À l'intérieur de ce répertoire GitHub, vous trouverez un répertoire exporteur. Dans ce répertoire exporteur, vous trouverez effectivement toutes les sources nécessaires pour l'élaboration de votre propre exporteur si vous le souhaitez. Vous trouverez déjà un embryon pour le traitement de l'OBJ pour XNA, un traitement pour le logiciel Cheetah 3D, un exporteur pour Blender qui est une solution gratuite très déployée, et puis une solution pour 3D Studio Max qui reste quand même la Rolls des éditeurs 3D quand il s'agit de s'adresser au monde du jeu vidéo. Donc je vais ouvrir ce répertoire puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui et je vais regarder un peu ce qu'il y a dedans. Notamment, je vois ici deux répertoires qui vont vous servir si vous souhaitez améliorer, si vous souhaitez transcender, je dirais, cet exportateur pour 3D Studio Max. Et puis vous disposez aussi d'une ressource zip que je vais télécharger immédiatement en cliquant ici sur RAW. Voilà, la ressource est téléchargée, vous voyez, c'est très très léger. Et cette ressource RAW, je vais l'ouvrir en local. Alors vous voyez qu'elle est constituée de deux dossiers, un pour la version 2015 de 3D Studio Max, un pour la version 2013. J'ouvre la version 2013 car c'est celle qui est installée sur mon poste. Et je vais prendre les DLL ici et je vais les envoyer sur le bureau. Voilà, c'est fait. Ces DLL sont sur mon bureau, mais je ne peux pas encore les exploiter comme ça parce que Windows bloque les DLL qui viennent du web pour des raisons évidentes, hein, de sécurité. Donc pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la DLL, je vais afficher ses propriétés, je vais demander à la débloquer, j'applique et je fais OK. Pareil pour les autres DLL. Rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Propriété, débloquer, génial, ça fonctionne. Et une fois que j'ai fait ceci, je peux les sélectionner, je vais les couper, CTRL X, et je vais les coller dans le répertoire d'installation de 3D Studio Max, donc en général Programme ou Programme Files, Autodesk, 3DS Max 2013, Bin, Assemblies, et je vais les mettre ici, à cet endroit-là. Donc je vais les coller ici. Alors là, effectivement, il ne va pas vouloir les coller parce que 3D Studio Max est en train de s'exécuter derrière, mais c'est ça le principe, c'est-à-dire que on les copie à cet endroit-là. Très bien, à partir de ce moment-là, vous êtes prêt à lancer 3D Studio Max, il va automatiquement charger l'exportateur. Très bien, voyons voir ce que ça donne. Donc là, je passe sur 3D Studio Max. Effectivement, vous voyez l'interface. Très connu du logiciel Pro, hein, à savoir avec ses quatre fenêtres différentes, ses quatre vues différentes. Et puis ici, vous avez l'apparition d'un onglet supplémentaire qui est l'exportateur de fichiers pour Babylon. Et pour vous montrer la surpuissance de cet exportateur, je vais créer quelque chose de très très simple. Encore une fois, c'est une leçon premier pas, donc vraiment quelque chose de très très simple pour vous montrer un peu quelle est la philosophie et comment on exporte pour Babylon.js. Alors en l'occurrence, je vais mettre dans la vue perspective que je vais maximiser ici et je vais créer un plan. Plus simple que ça au début, c'est pas possible. Avec ce plan, je vais créer une petite boîte. Vous voyez, hein, onglet création primitive boîte. Cette boîte, je vais la déplacer ici pour lui donner un petit espace. Je vais créer une sphère géodésique ici parce que c'est joli. Et je vais même, en appuyant sur Shift, la dupliquer pour en faire une deuxième que je vais réduire un peu en taille. Super, j'ai ma première scène 3D. Je suis très très content de ça. Et je vais maintenant voir comment l'exporter pour 3D Studio Max. Alors là, en l'occurrence, ça ne suffit pas encore tout à fait hein, au niveau des assets, vous vous en rendrez compte. Les couleurs sont des couleurs par défaut qui sont assignées aux objets. Donc pour le coup, je vais pouvoir ouvrir l'éditeur de matériaux. Et je vais donner un matériau à chaque objet, un matériau différent. Vous voyez, je fais ça en glisser-déposer. Et puis, je vais donner effectivement un matériau rouge à la bille, enfin au cube, pardon. Un matériau bleu, peut-être à l'une des sphères géodésiques. Et peut-être un matériau vert à cet endroit-là. Splendide. Là, j'ai à peu près ma scène va commencer à aller bien. Je vais juste dire, ah ben, j'aimerais bien qu'elle brille un peu la dernière bille. Je vais rajouter un petit peu de spéculaire ici. Très bien, ça fonctionne très très bien, mais il va encore me manquer deux trois petites choses. Là, vous voyez que par défaut dans la scène 3D, j'ai des ombres portées. Ces ombres portées sont issues d'une lampe qui n'existe pas vraiment dans la scène. Elle est générée de manière automatique par 3D Studio Max pour avoir un point de vue. Donc pour ça, je vais créer une vraie scène. Donc pour ça, je passe en une vraie lumière. Pour ça, je passe en vue de dessus. Je vais dans l'onglet Création Lumière, je vais choisir une lumière type standard, de type Target Direct, donc une lampe directionnelle avec un petit effecteur d'extrémité au bout. Je repasse en vue de côté, je règle à peu près mon éclairage, je repasse peut-être ici en vue perspective, je tourne autour de mes objets pour regarder un peu ce que ça donne. Alors là, ma lampe, vous le voyez, hein, elle n'a pas assez de champ, donc je vais dire au niveau de ses paramètres directionnels, je vais régler un petit peu le champ, de manière à ce que tous mes objets soient éclairés. Super, ça fonctionne pas trop mal. Qu'est-ce qui me manque encore? C'est bah, finalement une caméra hein, pour fixer un point de vue. Alors pour ça, je vais dire, bah, je vais créer une caméra libre que je vais positionner dans la vue de face. Voilà. Et je vais la positionner comme un objet 3D en fait. Hein. Je vais changer son point et je vais bah, demander à voir ici à partir de la vue caméra. Je vais la déplacer un peu. Et je vais peut-être éventuellement changer un petit peu sa focale en mettant un objectif de 24 mm. Splendide. C'est ce que je voulais. Il n'y a pas de doute. Je vais pouvoir commencer à me pencher sur la partie purement temps réel de la scène. Oui, parce que 3D Studio Max, lui, n'a pas connaissance du caractère 3D temps réel de votre scène. Lui, il crée des assets, il crée des assets. Bon, comment on donne un caractère un petit peu 3D temps réel à tout ça? Bah déjà, il faut savoir que chaque entité est traitée de manière granulaire dans Babylon. Par exemple, si je veux m'adresser aux paramètres 3D temps réel de la scène, bah je vais pouvoir le faire de manière spécifique en faisant un clic droit sur une portion vide de l'afficheur. Je vais afficher le quad menu, hein, vous voyez ce menu qui apparaît, c'est le quad menu. Je vais aller voir dans Babylone, propriété Babylone de la scène en l'occurrence, et je vais pouvoir régler par exemple la collision et la gravité de ma scène. Donc là en l'occurrence c'est une gravité qui fait un peu moins de 1 mètre par seconde sur l'axe des Y, ce qui correspond à peu de choses près à la gravité terrestre. Pareil pour les objets. J'affiche le quad avec un objet sélectionné derrière. J'affiche les propriétés Babylone de l'objet. Vous voyez un panneau légèrement différent parce qu'on n'adresse pas la même entité. Et là, en l'occurrence, bah, je vais pouvoir éventuellement valider les collisions de la caméra avec cet objet, l'exporter ou ne pas l'exporter au moment du traitement de l'export vers Babylone, le rendre interactif ou non, essayer d'optimiser ses sommets ou de laisser les lissages par défaut entre les faces. Afficher ou non la boîte englobante et afficher la boîte englobante au niveau des sommets. Animer ou non, là en l'occurrence pour l'instant j'ai pas d'animation donc je peux désaffecter ça. Et ainsi de suite. Et ça je vais pouvoir le faire bah, pour tous les objets. Alors l'avantage qu'il y a ici c'est que je peux multi-sélectionner les objets en appuyant sur CTRL et en sélectionnant mes différents objets, demander l'apparition de la boîte Babylone et je peux automatiquement affecter mes paramètres à tous les objets sélectionnés. Ça sera pareil pour la lumière qui disposera aussi de son propre élément Babylone. Je peux exporter ou non, animer ou non, et également pour la caméra qui dispose elle aussi de ses propres caractéristiques et notamment forcément la collision avec les objets, la gravité de la caméra si je veux qu'elle bah, se positionne au niveau du sol ou si je veux voler comme un oiseau à l'intérieur de ma scène. Et puis effectivement, bah, la vitesse de ma caméra et son inertie. L'inertie correspondant à la vitesse à laquelle mon mouvement va s'arrêter une fois que j'aurai relâché le bouton d'action de déplacement. Très bien. Vous avez vu que rapidement on a balayé toutes les caractéristiques principales. Le reste des caractéristiques étant pris en compte par 3ds Max lui-même. Par exemple, si je vais sur les propriétés d'un objet ici et que je dis il n'est pas rendu, et bien ça sera réinterprété directement dans le moteur Babylone, c'est-à-dire que l'objet sera calculé, mais il ne sera pas visible sur le rendu final. Très bien. Ceci est fait. La scène est prête. On va pouvoir commencer l'exportation. Alors pour l'exportation, il existe plusieurs moyens de faire ceci. Je pourrais le faire à cette manière-là, c'est-à-dire ouvrir ici une fenêtre Babylon JS et puis aller dans une partie un petit peu à découvrir Sandbox. La Sandbox, c'est un outil qui va vous permettre de drag and dropper vos scènes directement à l'intérieur d'un éditeur en ligne, qui va vous permettre de retaper un peu votre scène, commencer à regarder ce que ça donne. Et pour ça, je vais prendre ma scène ici. Je vais exporter vers Babylon, vers un fichier qui se trouvera sur mon desktop. Donc je vais appeler test 1. Et je ne veux pas de texture parce que je n'en ai pas. Je ne veux pas sauvegarder automatiquement. Et je vais exporter ma scène. Vous voyez que j'ai ici une petite liste qui permet de savoir si quelque chose s'est mal passé. Alors, en l'occurrence, tout va bien. Il n'y a rien en orange ni en rouge. Ma scène est exportée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit se trouver maintenant sur mon bureau. Effectivement, la scène est sur mon bureau. Donc je vais pouvoir la drag and dropper automatiquement, pardon, depuis mon bureau vers le navigateur. Et effectivement, j'ai bien ma scène 3D. Alors là, on est vraiment en ligne, hein. Il faut être connecté pour disposer de l'outil Sandbox. Mais vous voyez que je récupère effectivement tous les paramètres, y compris la petite brillance ici sur la sphère géodésique, qu'on appelle le spéculaire. Bon, c'est bien ça, mais ça manque un petit peu de relief. Donc pour ça, je vais aller reprendre les paramètres un petit peu de ma lumière ici. Et puis je vais prendre un paramètre classique de 3D Studio Max qui consiste à balancer de l'ombre temps réel. Et vous voyez que 3D Studio Max sait le faire. Donc on va faire la même chose avec Babylon, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas exporter pour l'exportateur. Je vais exporter d'une autre manière. Je vais faire ce qu'on appelle un export and run. Export and run, ça fait quoi? Vous voyez que là, en l'occurrence, j'ai les ombres, mais en l'occurrence, ça exporte la scène et ça l'exporte vers un localhost, c'est-à-dire que vous travaillez en local avec une copie de votre scène directement embarquée dans le moteur de Babylon.js. Voilà, là déjà vous avez les bases pour commencer à créer du contenu, à commencer à voir quels sont les tenants et les aboutissants de Babylon.js, donc de manière très très simple. Ça conclut effectivement cette petite vidéo. Je vous encourage à venir voir la suite, bien entendu, qui traitera plus spécifiquement, je dirais, de l'animation. Donc, on partira sur une scène qui sera un peu plus costaud la prochaine fois. Et voilà quoi, quelque chose qui sera, à n'en pas douter, assez impressionnant visuellement, je dirais, cette fois-ci. Voilà, c'était le premier cours pour Babylon.js et 3D Studio Max, pour la Microsoft Virtual Academy. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. À plus.